Bonjour à tous, merci pour votre présence ce matin pour notre 4e labo de l'édition. Les autres années, nous recevions Benoît Virot des éditions du Nouvel Attila. Et cette année, nous avons le plaisir de recevoir, alors attendez, les éditions du Chemin de Fer avec François Grosso.
Non, c'est moi.
François Grosso. Et, oui, mais je sais en plus. Et Renaud Bénère. Ouais. Voilà. Donc, ils nous ont confié. Peut-être certains viennent pour la première fois. Ils nous ont confié avant l'été 3 manuscrits que tous les membres du comité de lecture qui sont présents ici ont lus très attentivement et dont nous allons débattre ce matin pour savoir si, de l'avis des membres du comité de lecture, ils seraient publiables ou pas. Mais nous avons évidemment nos deux éditeurs qui donneront leur point de vue et qui pourront vous parler de leur travail d'éditeur. Mais tout d'abord, je vais laisser se présenter et présenter leur maison d'édition.
Bonjour à tous. Les éditions du Chemin de Fer, c'est une maison d'édition que nous avons tous les deux créée en 2005, il y a 13 ans maintenant, et nous avons publié en juin notre 100e titre. La spécificité des éditions du Chemin de Fer, quand on a créé la maison d'édition, était de vouloir se reposer la question du livre de fiction illustré. L'idée étant de publier des textes de fiction relativement courts, c'est-à-dire un court roman, une longue nouvelle, et ensuite de le proposer à un artiste qui n'a pas la pratique habituelle de l'illustration, pour lui demander ce que ça pourrait être aujourd'hui de mettre des images sur un texte de fiction. Et donc voilà, nous avons un catalogue de 200 titres qui fait la part belle aux auteurs contemporains, vivants, que ce soit des auteurs que vous connaissez parce qu'ils publient déjà, comme Nancy Houston, Marie-Hélène Lafont, des gens qui peut-être sont déjà venus d'ailleurs aux correspondances, ou des premiers textes. Et il y a une deuxième collection qui, elle, a aussi un rapport à l'image, mais qui est plus une collection dédiée à des auteurs du patrimoine du XXe siècle, des inédits, des textes rares ou oubliés. Donc ça va de Jean Genet à Violette Leduc, Béatrix Beck, Stieg Dagerman, enfin voilà. Voilà pour vous dire globalement à quoi nous attelons aux éditions du Chemin de Fer. Et vous avez nos livres, une partie de nos livres qui sont sur la table du Poivre d'Âne, là, derrière vous, si vous voulez les regarder. Mais on avait envie plutôt de vous parler un peu de la manière dont finalement, quand on recevait un manuscrit, qu'est-ce qui se passait habituellement aux éditions du Chemin de Fer quand il n'y a pas le comité de lecture du labo de l'édition, puisque voilà, là, ça change tout. Parce que donc, nous sommes une petite maison d'édition, nous sommes deux, et finalement, le comité de lecture est habituellement assez réduit. Et le premier critère, c'est que nous soyons tous les deux d'accord pour publier un texte, d'une part, et ou que l'un arrive à convaincre l'autre que ce texte vaut le coup d'être publié. Comment dire ? La question principale qu'on se pose finalement quand on lit un texte, c'est finalement de savoir si ce texte est nécessaire. Et dans cette nécessité, il y a plusieurs choses. La première étant évidemment de se poser la question de savoir si par rapport à notre catalogue, ce texte est nécessaire. Et je parle beaucoup et Renaud parle très très peu en général, c'est ça le problème. Donc, voilà. Nécessaire, ça veut dire une maison d'édition, c'est comme le mot maison l'indique, c'est finalement des briques que l'on ajoute les unes aux autres, qui sont à la fois très disparates, mais qui doivent essayer, au bout d'un certain moment, de former une cohérence. Et évidemment, cette nécessité-là, elle est extrêmement importante, c'est-à-dire la cohérence par rapport au catalogue. L'autre nécessité, c'est de savoir si ce texte pose une question par rapport à la littérature, par rapport au monde dans lequel nous vivons. Et c'est cette question-là qu'on va se poser en second lieu. Et je vais... Oui, tu veux...
Et on nous a dit d'être rapide, donc je sens que tu vas t'étaler. Donc, et la troisième chose qui est très importante et qui est plus subjective, mais tout est subjectif dans notre métier en fait, c'est de savoir si ce texte laisse une place et interroge quelque chose en termes d'image, d'illustration, et si ce texte, à terme, quand il deviendrait ou deviendra un livre, pourra être illustré, et est-ce que son imaginaire, ce qu'il convoque, ce qu'il évoque, pourra motiver le travail d'un artiste pour venir s'inscrire dans un livre, en fait. Ça, c'est très, très important. C'est-à-dire qu'il y a des textes qui sont... c'est l'ouverture, en fait, qu'il laisse. Et voilà.
Et juste pour finir, donc quand on a décidé de choisir 3 manuscrits pour le labo de l'édition, la première chose, c'est que ce sont des manuscrits bruts, c'est-à-dire qu'ils ne sont... Il y a toujours un travail ensuite de correction avec les auteurs. Donc là, les manuscrits que nous avons donnés étaient bruts. Et c'était vraiment 3 manuscrits très différents les uns des autres, mais sur lesquels nous n'avions pas pris la décision en juin quand nous les avons proposés. On s'interrogeait sur les 3 manuscrits, est-ce qu'on les publiera ou non. Voilà, on vous dira à la fin si des décisions ont été prises depuis le mois de juin, mais on va peut-être là laisser la parole au comité. À moins
chrono. Non, sans avoir reçu, remercier avant, s'ils sont dans la salle, parce qu'on ne sait jamais, les auteurs de ces manuscrits qui sont pour l'instant mystérieux, mais voilà, parce qu'on était très contents en tout cas de les recevoir, parce que si... on s'est interrogé jusqu'à les faire lire à un comité aussi élargi, c'est que pour nous ils étaient assez importants et qu'on se posait vraiment des questions sur ces textes-là.
Merci beaucoup. Donc la rencontre va se dérouler en 4 parties. Pour chaque manuscrit, alors il y a une petite règle du jeu, pour chaque manuscrit nous aurons 20 minutes, à peu près 5 minutes de présentation par une ou deux personnes qui vous résumeront un petit peu le texte pour que vous sachiez quand même de quoi nous débattons. Puis, nous débattrons de ce texte. Alors, vous verrez, les avis sont... On s'est déjà rencontrés une fois, les avis sont extrêmement divergents. Et vous aurez 5 minutes dans le public pour nous livrer vos réflexions, pour poser des questions aux éditeurs ou pour nous faire part de vos impressions. Et il y aura un petit jeu de jingle par le technicien qui nous interrompra au bout d'un quart d'heure et après au bout de 5 minutes de discussion avec le public. Et ceci pour les 3 manuscrits. Ensuite, vous aurez du temps pour poser des questions vraiment à nos 2 éditeurs. Alors, nous allons commencer par Martin de Tour. Martin de Tour, et c'est Jacqueline et Nathanaël qui vont vous les présenter.
Alors, Martin de Tours, c'est un manuscrit de 41 pages, sous-titré « Pentaptique », autrement dit, présenté en 5 tableaux. Je vais donner les noms des lieux en français, parce que dans le manuscrit, ils sont en latin d'époque. Mais je pense qu'il aurait fallu les traduire, donc j'économise la traduction, je les donne directement en français. Le premier tableau se passe à Amiens, c'est l'hiver, on est en 334. Le vent souffle, tout est desséché, misérable, notamment un mendiant ravagé de douleur et de misère. Martin passe à cheval, son cheval est harnaché, flamboyant, lui-même est jeune. Jeune, il a 18 ans. Ça fait déjà 3 ans qu'il est légionnaire. Il va s'arrêter vers le mendiant, couper son manteau et lui en donner la moitié.
Le soldat attrapa de nouveau son manteau par le col et depuis l'ouverture qu'il venait d'y faire, le fendit de haut en bas afin de le couper en deux. Il entendit une moitié au mendiant qui s'en empara, remerciant, courbant la tête, faisant de nouvelles références et pensant par-devers lui. « Pourquoi cet idiot ne me donne-t-il pas son menton en entier ? Que va-t-il faire d'une moitié de manteau ?»
Deuxième tableau. On est toujours à Amiens, le même jour, mais le soir. Martin est circitor, c'est-à-dire qu'il est gardien et il fait des rondes de surveillance dans le camp romain. Et il garde la tente du tribun. Il a un esclave. Il aurait dû en avoir deux, mais il n'en a voulu qu'un. Il lui lave les sandales et il lui donne les moitiés de ses rations, et ceci plusieurs fois.
La scène s'était reproduite de nombreuses fois par la suite, devenant une habitude pour le circitor, mais pas pour le calot qui n'en comprenait pas le sens, et n'en finissait pas d'attendre le moment où cette mascarade se dénouerait dans un châtiment. Ce moment n'arrivait pas. Mais une telle infraction à l'ordre du monde ne devait pas rester sans conséquence. C'est pourquoi, chaque fois que le maître faisait mine de vouloir nettoyer ses sandales, le serviteur était pris d'une terreur plus grande que la fois précédente.
Troisième tableau, on est dans le sud-ouest, vers Narbonne, probablement dans un monastère. On nous décrit une salle avec des dalles et un feu crépitant. Et il y a deux personnages. Sulpice Sévère, qui a la trentaine passée, qui est un Romain converti et qui a vécu les trois dernières années avec Martin. Et il dicte à un scribe, un esclave scribe, la biographie de Martin. Mais on sent que la légende commence. En fait, il écrit une hagiographie.
Il se remettait à tracer des lettres sur la dictée de la voix. Puis, se tournant vers les anges qui l'entouraient, Jésus dit à haute voix, « Martin, encore catéchumène, m'a donné ce vêtement. » Comme le Christ, les anges du rêve de Martin cherchèrent la voie de la représentation dans l'esprit du copiste et prirent les traits de deux jeunes garçons qui étaient au service de Sévère, adolescents glabres et robustes qu'on avait tondus, portant aussi le pallium noir, parfois un petit nœud.
Alors, on arrive au quatrième tableau. On est à Worms, en Allemagne. Le camp romain est face au camp des Alamans. Martin a 40 ans, donc on est en 356. Le César récompense ses vétérans, un à un. Quand arrive le tour de Martin, celui-ci demande son congé. Il a fait 25 ans d'armée, il a 40 ans, et il souhaite s'en aller. Mais la bataille est proche, donc il va être traité de lâche par le primicier. Alors le primicier, c'est un aristocrate romain proche de César, mais tout de même sous les ordres d'un barbare romanisé qui est le comte. Alors là, il y a des descriptions que je passe, mais somptuaires sur le comte et sur le primicier. Donc traité de lâche, Martin dit, mais moi je peux aller au-devant des barbares et en faisant un signe de croix, ils se rendront.
Le vétéran Martin avait, paraît-il, continué le comte, prétendu qu'avec l'ardeur de sa foi, il pouvait mettre les Alamans en déroute par un simple signe de croix. Ce vétéran était donc moins lâche qu'il n'était fou. Il se prenait pour l'empereur Constantin, l'imbécile. « Dans ce cas, qu'on le mette demain en première ligne », hasarda le primicier.
Dernier tableau. On est à Cande, qui est une petite ville à l'ouest de Tours. On est en 397. Martin vient de mourir. Et alors, ce tableau foisonne de personnages. Le cadavre de Martin est là, mais la foule est arrivée, cherche à le toucher, cherche à récupérer des reliques. Et il y a surtout deux camps qui vont s'affronter. Les Poitevins Candes, où se trouvait le monastère de Martin, et Tours, dont il a été élu évêque, en 371. Donc, pour avoir la dépouille, excusez-moi, tout de même, les Tourangeaux usent une astuce, ils enferment les Poitevins et subtilisent la dépouille par une fenêtre d'une manière décrite il va tomber dans une gabarre qui doit l'amener jusqu'à Tours. Mais il faut signaler que parmi ces aristocrates, autant poitevins que tourangeaux, Il y a des gens qui ont subi les raids de Martin et ses moines qui venaient tout briser dans leur sanctuaire et détruire leurs idoles et qui par la suite se sont convertis.
Il faisait étonnamment doux pour la saison et Mérobande, qui s'était demandé si cela n'était pas un mauvais présage, savait maintenant que son bateau avait été choisi pour transporter le saint, que l'avenir lui serait favorable. Aussi ne prêta-t-il pas attention au claquement d'une queue de castor sur l'eau, au bruit de grincement de cordes distendues que lançaient les grenouilles, à l'envol d'un héron aux ombres nerveuses des écureuils sur la cime des arbres. Par précaution, il porta quand même sa main à l'amulette qui pendait à son cou et contenait des dents de taupe.
La superstition n'est pas finie. Hein. Lors du cheminement, environ 30 km, on assiste à l'été de la Saint-Martin.
À l'avant du bateau, deux clercs qui ne dormaient pas regardaient sur la rive défiler les ramures sanguines des cornouillers et des saules pourpres, les capsules roses vives des fusains, les houppiers des chênes et des ormes qu'on aurait dit trempés dans un pot de miel, les aulnes soudain couverts de mimosa, les crépitements des billes grenats aux buissons d'aubépine et jetaient çà et là les taches de soleil des matricaires. L'un des clercs dit « Vois les fleurs d'automne ». « Oui, répondit l'autre, on dirait un deuxième été. » Alors, c'est un texte que nous avons beaucoup aimé avec Jacqueline, donc on le défend toutes les deux. Et évidemment, on a essayé un petit peu de vous le rendre, ce qui nous a frappé, ce qui nous a vraiment intéressé, en plus de cette écriture qui est extrêmement poétique, donc extrêmement érudite, hein, Jacqueline a essayé de vous transmettre, ce qui a pu être d'ailleurs une difficulté pour certains, c'est ce passage très léger de cette antiquité. On voit, elle nous a parlé de ce tribun, de ces patriciens, à la chrétienté. Les barbares sont aux portes de Rome, on est en 395-410, Alaric, les Goths, ça va être le sac de Rome, la chute de Rome. Et là, on sent vraiment hop, ce petit basculement où, comme elle l'a dit, Martin, eh bien, il va saccager les idoles païennes. Et puis Martin meurt, et sur le bateau, vous verrez les. Enfin, si un jour on lit ce livre qui sera peut-être édité, vous verrez les. Il s'empare des ongles, il coupe les ongles, il commence à couper tous les. C'est la naissance des reliques. Et ça, ce petit. Voilà, ça, moi, ça m'a extrêmement touchée. Et comme on ne connaît pas l'auteur, on s'est permis, avec d'autres lectrices, parce qu'elles ont lu aussi, on s'est demandé, il y avait des accents. Ou de Quignard. Alors là, je vous présente les tablettes de buis d'Apronenia Avicia, une patricienne romaine qui, elle aussi, assiste à la chute de Rome, hein, très légèrement, et au parti chrétien qui arrive, qui va brûler leurs idoles. Or, elle fait partie du parti païen. Ou on venait d'aller jusque-là, mais je crois que Pierre Michon, l'empereur d'Occident, ou pareil, vous avez, dans une écriture extrêmement raffinée, ce basculement entre cet empire romain qui se délite sous les coups de butoir et des Goths, mais pourquoi pas aussi de la chrétienté.
Moi, j'ai trouvé les 18 premières pages éblouissantes du point de vue de l'écriture de l'histoire de Martin, mais j'ai sûrement lu une lecture distraite, mais après, j'ai perdu Martin. Comme il a un autre nom, je n'ai pas fait le lien. Et du coup, bah, j'ai décroché et j'ai rien compris. Mais j'ai retrouvé Martin à la fin. Voilà.
Alors moi, Martin, je ne l'ai pas perdu du tout. Et ce qui m'a beaucoup intéressée dans ce livre, c'est d'arriver justement à en faire, je dirais, vraiment une nouvelle et quelque chose d'un peu romanesque. Je n'ai pas eu la lecture savante que vous avez eue, mais j'ai vraiment eu l'impression de le rencontrer. Pourquoi ? Parce que cette biographie n'est pas une biographie linéaire. Elle est faite au travers de tableaux dont le cursus chronologique est interrompu et quelquefois inversé, ce qui m'a plutôt intéressée. Et j'ai trouvé beaucoup de plaisir à rencontrer le camp, les Romains, les barbares, les moines, le peuple qui va gratter les ongles de la dépouille, la chrétienté, et donc tout ça fait une espèce de décor à quelque chose qui a pris pour moi un côté un peu romanesque. Donc par rapport à ce que vous disiez, en termes de nécessité, je n'ai rien appris, parce que j'ai une vieille culture gâteau que Saint-Martin, on m'en a toujours parlé, et que sur Wikipédia, on voit qu'il est mort en 397. Mais par contre, je l'ai complètement découvert parce qu'il a cessé d'être un saint au milieu du paradis et qu'il est devenu un compagnon de route. Et je suis moins savante que vos comparaisons. Moi, il y a une comparaison que je voudrais faire. Je suis un peu manosquine, donc je connais le Hussard sur le toit. Et si vous lisez le Hussard sur le toit, les premières pages, c'est exactement le même type d'écriture que le premier tableau que nous a montré Jacqueline, c'est-à-dire qu'on commence par avoir le climat, chaleur accablante, l'herbe jaunie, les traces de pas, l'odeur du cheval et du cavalier parce qu'ils ont beaucoup transpiré, et petit à petit, on remonte jusqu'au visage du hussard.
J'ai juste oublié. Oui, moi, je voudrais demander aux éditeurs si pour les gens comme moi, au début du livre, vous ne pouvez pas mettre, comme dans Dostoïevski, la liste des noms des persos, et puis un peu de date, enfin voilà, quoi, pour que je m'y retrouve. Merci.
Clairement, en termes de travail d'édition qui reste à faire sur ce texte, il y a des éclaircissements et des intentions de départ. Et disons que le côté érudit est porté par une langue somptueuse, comme vous l'avez dit, est quelque chose qui nous plaît énormément. Et après, on se rend compte, en effet, qu'il y a des éclaircissements à faire. Donc, si on travaille là-dessus, il y aura sûrement une sorte de note d'intention, note de lecture et quelques travaux sur le vocabulaire et le cursus de notes qui est très, très important, voire peut-être trop important.
Pour ajouter quelque chose, c'est évident que pour nous deux, je pense, c'est clairement du côté de Pierre Michon, plus que de Pascal Quignard que l'on est. Mais voilà.
Oui, moi, j'ai eu aussi cette familiarité avec notamment Abbé de Pierre Michon. Et j'ai trouvé que c'était un texte qui se tenait tant par la forme que par la langue, parce que c'est une langue élégante. Et j'ai eu un doute à un moment sur, par rapport à votre ligne éditoriale vue par un plasticien, parce que les tableaux sont tellement posés, il y a 5 tableaux tellement posés, que je me suis demandé si ce n'était pas une gageure que de proposer ça à un plasticien. Que va-t-il en faire ? Comment va-t-il se détacher de ces 5 tableaux ?
Oui, c'en est une en effet, puisque l'auteur a écrit à partir des tableaux suite à une visite que l'auteur a fait à Tours, donc c'est vraiment ils sont moteurs, mais on va y réfléchir. Voilà. Il y aura sûrement une solution. Il y a une solution, puisque comme j'ai dit qu'il fallait toujours qu'il y ait des images qui puissent être générées vecteurs ou en accord ou en désaccord avec le texte. Je pense que là, on est un texte qui a que des images, beaucoup d'images, beaucoup de sens, beaucoup de référence aussi, mais aussi énormément, qui est vraiment bâti sur le visuel. Donc, on trouvera un moyen d'en faire un objet qui travaillera sur cette partie-là. Il n'y a pas de souci. On trouve.
Alors, moi, c'est un manuscrit qui m'a beaucoup plu, beaucoup touché. Et par rapport, je trouve justement que c'est l'auteur a bien fait de s'adresser à cet éditeur. Parce qu'à mesure que je lisais le livre, je voyais des magnifiques illustrations qui défilaient. Il y a des descriptions magnifiques sur l'herbe, la nature. J'ai aimé aussi le passage fort quand l'esclave, on lui lave les pieds, il reçoit à manger. Cette peur qu'il a, mais je la ressentais vraiment dans le livre. Voilà.
Bon, on te laisse la parole, Guy, exceptionnellement, mais de toute façon, tu n'avais pas grand-chose à en dire.
Je suis vexé, je dirais rien. Non, moi, je voulais dire, devant ce concert de louanges, que personnellement, moi, je n'ai trouvé aucun intérêt à ce manuscrit.
Je vous l'avais dit.
Ce qui ne veut pas dire que c'est mal écrit ou que le sujet n'est pas intéressant, mais c'est mon opinion, je n'y ai trouvé strictement aucun intérêt.
Sur ce, nous laissons là. si vous avez des questions à poser, N'hésitez surtout pas, c'est à vous.
On ne vous entend pas du tout.
Ça y est, il y a quelqu'un qui a parlé.
Vous avez parlé au début de la lecture, il y a une allusion à la moitié du manteau de Saint-Martin. Et moi, enfant, ça m'a fait rire, et cette histoire de moitié de manteau, effectivement, qu'est-ce qu'il fait de l'autre moitié ? Alors, est-ce qu'il y a de l'humour dans ce manuscrit ? On ne s'en rend pas vraiment compte d'après votre discussion.
Jacqueline a une réponse.
Merci.
Alors, d'après certaines recherches, il s'avère que le manteau était propriété de l'armée romaine. Et ce qui appartenait aux légionnaires, c'était la doublure qu'ils pouvaient y mettre, plus ou moins luxueuse selon son rang. Et Martin, en fait, n'a donné que la doublure. Il n'était pas propriétaire du manteau.
D'accord. Merci.
Mais est-ce qu'il y a de l'humour dans le texte ? Est-ce qu'il y a de l'humour dans le texte ?
Non.
Ah non, je ne pense pas qu'il y ait de l'humour dans le texte, pas du tout. Et l'iconographie représente toujours ce manteau rouge, parce qu'en symbolique, le rouge, c'est l'ardeur, alors qu'en fait, il était blanc.
Moi, j'ai lu le manuscrit. Je suis de l'avis de Guy. Je n'ai pas trouvé un grand intérêt. Et les descriptions en particulier... Bon, c'est très bien écrit, c'est vrai, c'est bien construit. Mais en particulier, les descriptions des costumes de tous les Romains, etc., je vais vous dire une horreur, ça m'a fait penser à Astérix.
Astérix.
Et à partir de là, ben, j'ai eu du mal à le lire.
Mais ceci dit, si on peut faire le succès d'Astérix avec ce livre, je le publie tout de suite. Hein.
À travers les extraits qui ont été lus, cela m'a fait penser un peu à Mémoire d'Adrien et d'Ursona, mais avec un côté plus cinématographique. Et je voudrais poser une question au monsieur qui n'a vu au livre aucun intérêt. Simplement savoir pour vous ce qui fait l'intérêt d'un livre et qu'auraient dû faire les auteurs pour vous convaincre.
Il n'y a aucun intérêt dans la mesure déjà où le sujet me touche absolument pas. Ça m'est totalement égal. L'histoire de Saint-Martin, je m'en fous, mais alors... Donc, j'ai lu ça d'un œil distrait. L'intérêt d'un livre, pour moi, c'est ce qu'il y a de passionnant à l'intérieur. C'est un début, une histoire, une fin. C'est quelque chose de construit, quelque chose de prenant. Or là, je me suis toujours senti extérieur, moi, à ce manuscrit. Ça m'a vraiment, vraiment, absolument pas intéressé.
Mais est-ce qu'il aurait fallu que l'histoire soit plus narrative pour que ce soit...
Non, pas spécialement. C'est peut-être ma culture qui fait ça, j'en sais rien. C'est le genre de livre que je ne lirai jamais. Quoi.
Et alors, parce que c'est un sujet religieux et que vous avez une culture laïque, ou parce que vous avez une culture religieuse et que c'est un sujet religieux traité de façon
non, c'est un peu des deux.
Matérialiste.
Je dirais que c'est un peu des deux. Non, mais bon, ça a glissé sur moi, si vous voulez, ou j'ai glissé sur lui, je ne sais rien, je ne sais pas dans quel sens le prendre, mais c'est comme ça.
Une question pour monsieur.
Bonjour. Il faut inverser la question à Guy, la poser aux éditeurs. Pourquoi vous avez accepté ce livre ? Enfin, sa lecture, déjà.
Pourquoi on a accepté la lecture ? La lecture, on les accepte assez systématiquement, oui, puisqu'on essaie de lire tout ce qu'on reçoit.
De le proposer à l'édition.
Après, pourquoi il est arrivé jusque-là ? C'est ça, et je l'ai dit déjà tout à l'heure, c'est parce que nous, on pense que c'est un manuscrit qui porte en lui un germe très, très intéressant, et je pense que, pour moi, c'est une... Bon, après, nous, entre nous, c'est prématuré de le dire, mais on n'était pas d'accord au départ. Moi, je pense que c'est un des plus beaux manuscrits qu'on ait jamais reçus et qui interroge tout ce qu'on veut interroger, c'est-à-dire comment un sujet peut être porté par la forme, comment la forme peut venir entre en soutien du fond et comment le fond peut m'édifier sur ce qu'est qu'être vivant, humain, réfléchir, avoir une culture, etc. Il y a tout ça là-dedans et ça me suffit.
Ce qu'on peut juste ajouter, c'est que... Non, que Renaud voulait publier ce manuscrit et moi, je ne voulais pas. Et c'est pour ça qu'on s'est dit on va le proposer au comité de lecture. Mais maintenant, on a une réponse. L'un a convaincu l'autre, mais on vous le dira à la fin.
Je ferai remarquer que c'est toujours les hommes qui sont coupés. Hein.
Nous allons maintenant passer au manuscrit intitulé « La piétonne ». La piétonne, c'est Yvette et Guy qui vont vous le présenter.
Une dame âgée va manger chez un de ses fils le dimanche. La circulation interdite dans le circuit habituel à cause d'une manifestation l'oblige à changer d'itinéraire. Un grand noir en retard de son rendez-vous force le passage et provoque l'accident. La dame âgée, qui n'avait jamais eu d'accident, se trouve déroutée pour affronter cette épreuve. Ses enfants ne veulent plus qu'elle conduise. Et la voilà qui marche dans les rues de Paris, devient piétonne et se souvient, au soir de sa vie, des épisodes de sa jeunesse, de ses voyages, des souvenirs familiaux. Conduire une voiture, c'est la liberté qui permet de s'évader. Y renoncer, ce n'est pas simple. C'est comme ça qu'on nous enterre à petite dose. La vieillesse, c'est descendre une marche après l'autre et renoncer à beaucoup de choses par obligation. Je trouve ce récit touchant, car la vieillesse, ce n'est pas facile à accepter. Cette dame est quelquefois maladroite dans le choix de ses mots, mais je pense l'avoir comprise. Si je devais éditer ce livre, je supprimerais certains passages qui ont peu d'intérêt pour le lecteur et je laisserais les passages bien décrits, émouvants et aussi ceux qui ont de l'humour. Guy va vous en parler.
Excellente présentation. Oui, ce livre, moi j'ai trouvé pas mal d'humour tout au long. Il y a des passages où on rit. Je vais vous lire un petit passage concernant l'accident de la voiture. De voiture, ai-je pendant un éclair de seconde cherché par quelle voie sortir de cette place où l'on avait dévié le trafic ? Le conducteur de l'autre véhicule, profitant de cette hésitation pour foncer en me barrant la route, à son âge, on est maître du jeu, ce n'est pas une voiture de rien qui va le ralentir. Pressé, il a forcé le passage. C'est que le patron l'attend dans le café où il travaille ce dimanche après-midi, m'a-t-il dit ensuite. Déjà qu'il est en retard, il ne peut pas se permettre de lambiner. Et quoi ? L'heure, c'est l'heure. Ma voiture, lors de l'accident, la calandre qui saute comme un râtelier, le radiateur qui pisse, on dirait une vieille femme molestée. C'est normal par un jeune. Voilà, donc il y a plusieurs passages pour vous en lire d'autres, ça, tout au long du manuscrit. Où il y a des traits d'humour assez intéressants. Et alors, ce passage-là, moi, personnellement, ce que je viens de lire, ça m'a fait penser au début du Cornio. Elle va beaucoup moins bien marcher, la voiture. Ben oui, et là, c'est un peu ça aussi. Elle va beaucoup moins bien marcher. Voilà. Allez.
Bah, à un moment, cette piétonne, Elle veut se débarrasser de ses meubles Louis XVIII. Et en fait, moi, ce que je pense, c'est qu'elle aurait dû mettre son manuscrit dans un tiroir des meubles Louis XVIII et qu'on n'en parle plus.
Alors, moi, je pense autre chose. À ce moment-là, on pourrait l'enfermer Olivia avec et comme ça, ça ferait la paire.
Alors, écoutez ça. À un moment, il y a un handicapé allemand qui parle allemand. Et elle dit, même un demeuré apprend à parler dans sa langue. Vous avez bien entendu ce qu'elle a dit. Même un demeuré apprend à parler dans sa langue. Alors là, j'ai commencé à être irritée. C'est page 32. Et l'irritation ne m'a plus lâchée. Et alors là, je vais vous sortir une perle. C'est page 94. Donc là, il y a un étudiant brésilien dans son immeuble et à un moment, il ne peut plus payer son loyer. Et évidemment, tous ces habitants généreux vont l'aider. Et elle dit, mais aurions-nous ainsi casqué si ce jeune homme était moins charmant ? Pas mal, hein, dans le genre. Donc moi, j'ai trouvé l'écriture complaisante, le ton condescendant, le milieu inintéressant. Elle le dit elle-même à un moment. Et j'invite l'auteur à, ou la narratrice, ou je ne sais pas qui, à rester dans sa bulle.
Alors là, je m'inscris complètement en faux avec ce que tu viens de dire.
Moi aussi.
Bien entendu.
Vas-y. Enfin, moi, je viens avec Olivia.
Alors, moi, je veux répondre à Olivia. Concernant la personne handicapée, je reconnais qu'elle a été maladroite. Elle aurait dû dire un handicapé mental au lieu de demeurer. Mais il ne faut pas oublier que dans le manuscrit, elle a un petit-fils qui est handicapé, qui s'appelle Alexandre, et pour qui elle a beaucoup d'affection. Ensuite, pour la personne qui est charmante, je dois rappeler que les personnes âgées, ben, quand elles rencontrent des jeunes hommes charmants, ben, elles sont sous le charme. Désolée, voilà.
Moi, si je n'avais pas lu le manuscrit pour cette, enfin, si je n'avais pas eu à lire le manuscrit pour cet exercice, je me serais arrêtée au bout de quelques pages. Par contre, on peut, en lisant donc dans le but de cet exercice, on peut noter quand même des choses positives. Il y a l'argument, c'est-à-dire la perte d'autonomie. Il y a cette promenade un peu erratique que la narratrice fait dans ses souvenirs, et notamment dans les lieux où elle va en villégiature, dans les maisons qu'elle habite. Et puis, il y a heureusement pour Guy et Yvette, une bonne accroche du lecteur dans les 3 ou 4 premières pages. Mais après, ça se dilue dans un bavardage, ça se dilue dans des paragraphes qui n'ont aucun intérêt, qui n'ont aucun lien avec le fil de l'histoire. Et là, on peut se demander si ce n'est pas uniquement un premier jet, si ça a été livré comme ça, comme un manuscrit où il n'y a pas eu ou presque pas de réécriture. Et donc, pour moi, c'est quelque chose qui est très, très inachevé.
Alors moi, je signe ce qui vient d'être dit. Hein. Par rapport à la présentation qui nous a été faite, qui était magnifique, moi, je l'ai perdu, l'argument, au bout de quelques pages. Et je dois avouer que je n'ai lu ce livre que parce qu'il me reste quelques relents de bon élève et que pour être là ce matin, je me suis un peu fait un devoir d'aller jusqu'à la fin. Mais j'ai été très, très malheureuse parce que cette errance dans Paris et dans la vie de cette dame, moi, je n'ai rien partagé avec elle. Martin, je l'avais rencontré, elle, je ne l'ai jamais trouvé. Pourtant, il y a 2 fois plus de pages. Ce qu'elle dit de Paris, je trouve que n'importe quelle carte postale et les plus plates disent mieux. Donc, ça ne fait même pas un peu d'évasion. Et je crois que je mettrai aussi le livre dans le tiroir du meuble du XVIIIe siècle.
Moi aussi, franchement. Et ce que j'ai vraiment eu du mal à supporter, c'est tout cet assemblage de lieux communs. Un peu comme une conversation qu'on aurait entre amis, comme ça, on se voit, on se croise au coin de la rue, et on se fait une petite réflexion un peu banale. Mais c'est plein de banalités, c'est plein de condescendance. J'ai été très choquée à la page 50 de lire « J'admire les gens qui ne savent pas lire ». Et ça, ça m'a vraiment choquée.
Oui, alors là, j'ai une réponse à t'apporter sur les gens qui ne savent pas lire. La phrase, à mon avis, n'est pas complète. Elle n'est pas allée jusqu'au bout de ce qu'elle voulait dire. Les gens qui ne savent pas lire, c'est probablement, pour moi, les gens qui ne savent pas lire comme elle. Il ne faut pas oublier que cette femme a été élevée toute sa vie avec un livre à la main, qu'elle baigne dans le milieu littéraire et qu'elle a certainement des habitudes de lecture, des habitudes d'intonation, etc., de compréhension que d'autres ne peuvent pas avoir et ont plus de mal à lire. Ça me fait penser, vous savez, à si on compare, je ne sais pas, un champion de natation, champion du monde de natation, et un enfant de 15 ans, de 10 ans, qui apprend à nager. C'est la différence, la distanciation qu'il y a entre les deux est la même pour cette histoire. Ce n'est pas péjoratif du tout. Mais moi, sur quoi je voudrais attirer l'attention, vous dites que ça n'a aucun intérêt, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce qu'on assiste à une redécouverte par cette femme depuis qu'elle n'a plus de voiture, à la façon dont la société a évolué et qu'elle ne comprend plus toujours.
Ça aurait pu être intéressant, mais ce n'est pas bien traité. C'est vraiment trop Dieu commun.
Ah non.
Et quand elle dit, regarde, je sors le livre que j'emporte partout, celui-là ou un autre, je le sors comme d'autres sortent leur revolver. Franchement, enfin...
Non, mais elle retrouve, elle trouve et elle découvre des choses sur lesquelles elle est complètement éberluée. Prenez la scène des urgences, par exemple.
Ouais, non, attends, elle ne fait pas la scène des urgences.
Ah, mais non, mais elle est éberluée de voir ce qui se passe, de ce qui peut se passer à notre époque. Elle n'était pas habituée à ça, elle ne connaît pas. C'est la révolution aux urgences pour elle. Les urgences étaient un lieu sacré, plus ou moins, et là, d'un seul coup, il y a une bande de zozos qui débarquent, qui jouent au foot aux urgences, qui jouent avec les fauteuils roulants, qui menacent les médecins. Enfin, bon, et elle découvre, mais pas seulement ça, elle redécouvre le métro, elle redécouvre plein de choses. Plein de choses, et c'est en ça qu'il est intéressant, ce bouquin.
Yvette.
Alors, quand on dit « je sors un livre comme d'autres sortent un revolver », moi, pour la défendre, dès que l'on ouvre un journal, maintenant, on se rend compte de la folie des hommes dans le monde. C'est pour ça qu'elle a employé cette expression.
Et puis, je voudrais dire à Olivia que les meubles du 18e, ils sont vachement beaux.
Alors, et pour te faire plaisir, je veux bien qu'on donne ce manuscrit à un sociologue qui étudie la vie des Parisiens. Voilà, il aurait quelques renseignements.
Mais les Parisiens, d'abord, les Parisiens, c'est des têtes de bois, c'est des gens qui se croient supérieurs aux autres. Ben, vous pouvez faire où ? C'est la vérité. Allez à Paris, allez voir. Les provinciaux, on est des couillons.
Bon,
c'est évident. Mais ceci dit, indépendamment de ça, vous n'êtes pas rentré dans le cœur de ce livre. Et cette femme, moi, je la trouve relativement attachante. Et je reconnais qu'effectivement, il y a sans doute des maladresses dans l'écriture, il y a sans doute des choses à revoir. Mais au final, je pense que ça fera un très bon bouquin.
Alors moi, pour relever tous ces passages où les gens disent qu'ils sont inintéressants, je vais vous en lire deux qui sont super bien écrits. Alors, elle se trouve à Istanbul. Je me retrouvais à Istanbul. Lors d'un récent voyage, en longeant la Côte d'Or, j'étais arrivée au café Pierre Loti, regard sur le fleuve chamarré, avec le soleil qui s'enfuit, laissant des traces vibrantes avant de s'aller coucher derrière nous. Mais c'est pas beau, ça ? Et puis, à un moment, elle tombe, elle chute. Bon, on appelle les pompiers. Alors, elle dit la chute, c'est-à-dire le vertige, un mouvement ininterrompu, quelque chose d'infini. La pierre lancée au fond du puits n'atteindra jamais le fond. Et pourtant, on attend le bruit, on attend cela toute sa vie. La chute dans la mort, l'amour, la dégradation.
Merci. Je voulais juste dire aussi que dans ce livre, il y a plein de citations. Et en fait, évidemment, elle a une connaissance littéraire, cette auteure. Mais en fait, elle n'en fait rien de ces citations, de mon point de vue.
Oui, je peux juste ajouter quelque chose parce que je tiens à défendre ce texte sur une chose quand même. C'est je vous trouve assez injuste dans quand vous citez de manière très partielle, quand elle parle du, même les demeurés apprennent dans leur langue, ou tout simplement la première scène de l'accident où elle écrit un grand noir m'est rentré dedans, et tout de suite après quand même quelqu'un lui dit mais pourquoi tu dis un grand noir, et elle dit mais parce qu'il est beau, musclé, et que voilà. Et il y a énormément d'irrévérence dans ce manuscrit, mais je crois qu'il s'est complètement assumé. Ses enfants, elle les appelle fils numéro 1, fils numéro 2, son petit-fils, c'est l'handicapé, et on sent pourtant qu'elle les aime. C'est-à-dire que je pense que là où je voudrais juste défendre le manuscrit dans ce que vous avez dit, c'est qu'on vit des temps où, effectivement, il y a une grande morale ambiante, il y a une grande, des grands discours qu'on nous impose, et comme si on ne pouvait pas dire certaines choses. Et là, ce que j'aime, c'est justement qu'elle ose dire ces choses. Elle ose dire qu'elle a donné de l'argent aux Brésiliens parce qu'il est beau, mais... Combien de fois n'avez-vous pas donné de l'argent dans la rue à quelqu'un parce qu'il avait un tout petit quelque chose de différent des autres ?
Oui, moi, j'ai senti le second degré. Moi, j'ai bien senti le second degré. Hein, je ne suis pas passée à côté, mais je trouvais qu'il tombait à plat.
Moi, j'ai espéré que ce livre ne soit que du second degré. J'ai espéré que ce livre ne soit que du second degré, parce que franchement, c'est quand même très, très, très...
Et moi, je l'ai trouvé très maladroit dans son second degré, s'il y a un second degré.
Non, mais je veux dire, le grand noir, pour ne citer que ça, c'est une chose, c'est un qualificatif, parce que ça arrive des fois. Moi, ma femme était hospitalisée, il y avait tout un tas de médecins qui passaient, enfin, elle avait une hémorragie cérébrale, il y avait tout un tas de médecins qui passaient la voir, et un jour, ma fille cadette était seule dans la chambre. Je reviens, elle me dit, le docteur vient de passer, il voudrait que...
Désolé, on ne saura pas la fin de l'histoire, Guy, on ne saura pas la fin de l'histoire.
Si, tu le sauras. Il voudrait que tu reprennes maman à la maison. Je dis, il est fou ce type, elle ne peut pas marcher, elle ne comprend plus rien, enfin elle est complètement au 36e dessous, c'est impossible. Et au moment où je vais sortir, elle m'a dit, ma fille me dit, tu vas voir, il n'est pas tout seul. Il y a une dizaine de personnes autour de lui, des infirmières, des internes, etc. Mais te trompe pas, hein, le chef, c'est le grand noir. C'était pas péjoratif, c'était une façon de le qualifier. On connaissait pas son nom, on connaissait rien. Voilà, c'est tout.
Merci Guy, merci à vous. Alors, est-ce que dans le public, vous avez des réactions par rapport à ce manuscrit ?
Oui, moi j'ai lu le livre avec beaucoup de plaisir, je dois dire. Et je crois que vous oubliez la plupart, c'est que ce manuscrit est un premier jet, je pense, et qu'il y a beaucoup de choses à faire dessus. C'est vrai que c'est un peu foutoir, ses souvenirs, elle raconte un peu ses souvenirs comme ils lui viennent un peu à l'esprit, et qu'une fois retravaillé, ça pourra donner quelque chose d'intéressant et qui devrait plaire au public.
Oui, par rapport aux souvenirs qui sont un peu fouillis, je rappelle que quand on arrive à un certain âge, on ne se souvient plus, la mémoire elle part, et on me dit juste l'essentiel. L'essentiel, c'est tout.
Non, mais je suis d'accord avec voilà. Toi.
D'autres...
C'est un de ceux que j'ai préférés.
Merci.
Quelqu'un veut intervenir ? Non ? Ah, il y a un monsieur qui veut parler là-bas.
On a entendu la question. Non, la question c'était est-ce qu'on écrit un. Je vous paraphrase.
Est-ce qu'on écrit un livre pour plaire au public ? Est-ce que l'auteur écrit son livre pour plaire au public ?
Alors.
La question est est-ce que l'éditeur, dans quelle mesure l'éditeur tient compte de
réponse
cette
de,
séduction
réponse de Normand, oui et non, je pense, parce qu'un livre qui plairait à personne nous embêterait un peu, un livre qui plairait à tout le monde ne prendrait pas un parti assez fort pour exclure quelques lecteurs. Je parle mal ?
Non, j'ai un truc à dire.
Ah ? Non, parce que je ne sais jamais où placer ce micro, ce n'est pas naturel du tout pour moi. Et voilà, je ne sais plus.
Juste sur est-ce qu'on écrit pour les lecteurs. En tout cas, nous, on a publié beaucoup, beaucoup de livres d'une auteure que j'aime beaucoup qui s'appelle Béatrice Beck et qui disait il n'y a pas de... Attendez, que je ne me trompe pas. Il n'y a pas de livre... Un livre peut exister s'il n'y a pas de lecteur, mais un lecteur ne peut pas exister s'il n'y a pas de livre.
Donc... C'est quoi la deuxième partie ?
La deuxième partie, c'est est-ce que nous, on se pose cette question ?
Oui, nous, on se pose cette question en tant qu'éditeur, c'est-à-dire qu'évidemment, c'est important d'avoir des avis qui soient pas trop divergents et pas trop excluants sur un manuscrit, mais en même temps, on trouve très, très intéressant et on tient à publier des livres qui forcent les lecteurs quelque part dans ses habitudes de lecture, dans ses certitudes, dans ses retranchements parfois. Et c'est vrai qu'on veut pas faire, on ne veut jamais faire des livres qui soient consensuels et qui soient marketés, c'est évident. Donc évidemment, on aime quand ça gratte. Mais on n'aime pas quand ça pique trop. Il faut que ça soit juste, quoi. Voilà. Donc ce livre-là, en l'occurrence, La Piétonne, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, avec beaucoup de choses qui ont été dites. Mais nous, on le voit vraiment comme, justement, là, moi, j'aime vraiment le côté l'irrévérence, le côté Tati Daniel, qui serait Zazie dans le métro, mélangé. Avec toute cette malpensance qu'elle distille. Et après, il y a en effet beaucoup de travail à faire sur le manuscrit.
Moi, j'aimerais savoir comment vous défendriez ce livre, enfin ce manuscrit, pardon, en termes de nécessité, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Si, par exemple, on prend le livre précédent et où la nécessité, entre guillemets, serait de travailler un texte religieux, un sujet religieux, d'une manière laïque, où la forme finit par modifier le fond. Comment vous parleriez de nécessité par rapport à ce livre ? Peut-être que c'est question, pour la fin du débat, je ne sais pas. Mais...
Oui, non, c'est une très bonne question, comme on dit en général, et je vais laisser, justement, on se pose la question de la nécessité de ce texte. Je ne sais pas exactement quel axe on pourrait prendre, et donc je vais...
En tout cas, je ne répondrai pas à la question sur la nécessité parce qu'on vous dira aussi tout à l'heure voilà, si on a décidé ou non de le publier. Ce que je voudrais juste ajouter, c'est que dans ce texte, en tout cas, il y a quelque chose pour un éditeur qui est assez important et qui n'était pas forcément le cas dans Martin de Tours. C'est qu'en tant qu'éditeur, il y a une chose qu'on doit faire, qui est l'intermédiaire avant d'aller au public, c'est de vendre les livres, non pas aux lecteurs, mais aux libraires. Et ce texte-là a une accroche très facile pour le présenter. Ce qui ne veut pas dire après que le contenu est en accord, mais...
Olivia va maintenant nous présenter le manuscrit qui s'appelle « Quelque chose de la poussière ».
Alors là, c'est un récit aussi déroutant que fantasque qui se déroule sur une île près du lac Messachi. Et en jargon chinook, ça veut dire « mauvais, méchant, vilain ». Tout se mêle, passé, présent, animaux, humains, fantasmes, réalité. Tout est suggéré et pourtant tout se tient. Dans ce texte, aux multiples influences, réincarnation, psychogénéalogie, etc. Et chaque détail est porteur de sens et de symboles. Alors il y a deux narratrices, la bleue, la vieille, la bleue, la vieille. Donc deux points de vue. Et dans cette famille dysfonctionnelle, on s'aime trop, on veut se tuer, comme dans la mythologie. La vieille, c'est la mère, elle a un mari géologue et deux enfants. Et là, je voudrais, pour vous mettre dans l'ambiance, vous donner une palette des comparaisons. La vieille, elle a hurlé comme un éléphant de mer. Elle dort comme un monstre marin. Elle glisse comme un lion de mer. Ou elle étreint les arbres morts. Le fils est résistant au froid comme une loutre de rivière. La bleue, elle, c'est un mystère. Sa naissance est une mise bas de l'océan. Elle a échoué dans cette famille comme un cétacé, mais à un moment, on lui dit « tu n'es qu'une flaque d'eau ». Elle est proche de son frère adopté. Elle joue le rôle de la mère si besoin. Et elle ne veut plus de son amant qui gueule sur les oiseaux que l'ancêtre aimé. Parce que ça, c'est un héritage de poids, aimer les oiseaux. La vieille, c'est une folle, elle fait des fugues. Elle parle à sa mère disparue dont l'esprit serait dans un saumon. La fille, la blonde, s'appelle Chiver. C'est une guerrière. D'ailleurs, Chiver veut dire fracassée. Le fils s'appelle Jésus, ce qui paraît bizarre au début. Mais après, on comprendra que ce n'est pas pour rien. Parce qu'il est tendre comme un agneau. Et il va quand même porter la culpabilité de sa sœur disparue. Il va s'enfoncer dans l'eau pour que la bleue vive. Il va peut-être se sacrifier, enfin, on peut penser. L'enjeu de ce livre, c'est quitter l'île, quitter la mer, quitter la vieille pour une renaissance. Mais étrangement, le livre commence avec le départ apparent de la bleue et de la vieille. Et pourtant, page 9, la bleue dit « Peut-être n'est-elle jamais venue avec moi rejoindre cette terre nouvelle. Peut-être est-elle restée sur l'île. Quoi qu'il en soit, elle me colle à la peau. » Et tout est dit. Donc, les ventres gargouillent, on fait craquer les vertèbres, on mange des frites grasses avec les doigts sur le pick-up. Cette écriture est organique. La force des images nous touche, nous embarque. Et d'après moi, ce manuscrit est arrivé à bon port aux éditions du Chemin de Fer, car il dialoguerait à merveille avec un plasticien. Et pour finir, tout autour et dans mon cœur, son âme en millions de petits morceaux, quelque chose de la poussière.
Donc, comme Olivia nous l'a dit, il y a deux narratrices, la bleue, la vieille. La bleue, c'est la voix pivot du texte. Pour moi, c'est le héros AUT, l'annonciateur de toute cette famille dysfonctionnelle, comme l'a dit Olivia. Mais on a besoin des deux voix parce que il y a donc le héros de l'histoire, mais il y a la vieille par qui l'histoire prend forme. Pour moi, la bleue est extérieure à cette histoire. Et c'est une histoire ancienne, c'est une histoire qui, pour moi, je retiens une histoire qui plonge ses racines dans les peuples premiers, dans les Amérindiens. Et j'ai lu ce livre comme un affrontement de deux mondes, un monde de tradition et le monde actuel où on mange des frites au vinaigre sur le capot des pick-up. Et dans tout le livre, il y a cette idée de fuite. Est-ce que cette famille qui montre les traditions, est-ce qu'elle peut partir de ces traditions? Est-ce qu'elle peut quitter l'île? En fait, c'est plus une métaphore. Il y a un pont. À la fin, on parle de pont. La bleue, elle traverse, elle passe le pont. Mais les autres, ils restent sur l'île. Ils sont attachés à leurs traditions.
Alors moi, je fais partie des gens qui sont complètement convaincus par ce manuscrit. Je dois dire que j'ai été beaucoup plus convaincue par la beauté de l'écriture, d'abord, que par l'histoire, qui, en effet, est un peu complexe. C'est comme une espèce de puzzle où il faut se promener pour les trouver, pour trouver les morceaux. Et finalement, je me suis beaucoup, beaucoup plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à ne pas savoir qui était bien qui, comment ça allait se passer. La bleue qui nous raconte qu'elle suit la vieille pour finir par nous dire, mais peut-être qu'elle n'est pas là du tout. Ça m'a énormément embarqué au terme, je dirais un peu physique du terme, mais ça n'est pas un livre que j'ai lu avec un coup de cœur au sens de l'empathie pour les personnages. Ce qui m'a énormément intéressé, Françoise en a parlé, c'est la notion de fuite. Je lis juste quelques petits mots. Notre silence est accablant de douleur. Nous perdons la tête, c'est sûr. Nous ne sommes pas prêtes pour ce monde. Je ne suis pas faite pour le monde. Et pour moi, tout le livre est là-dedans. Chaque personnage n'est pas fait pour là où il est, n'est pas fait pour là où il habite. Et je suis très, très impressionnée de ce que les personnages m'ont donné l'impression d'avoir une existence à partir de leur disparition. Est-ce que c'est une réflexion sur la mort? Est-ce que c'est à rattacher à tout le travail sur les ancêtres qu'évoque ce livre? Mais pour moi, s'il y avait une... Pour reprendre la question de nécessité qui m'a beaucoup intéressée dans ce que vous avez dit, peut-être que la nécessité du livre, ça serait d'être là, qu'il faut qu'il y ait des générations qui passent pour que d'autres arrivent, qu'il faut qu'on casse des choses pour en reconstruire. Et puis, comme elle le dit, qu'il faut traverser un pont pour reconstruire un pont. Et ce livre n'est pas du tout noir, puisque la bleue finit par dire « Peut-être un jour te retrouver et peut-être un jour reconstruire le pont. »
Oui. Alors, moi, je vais dire que si je vois un livre où il y a écrit « La poussière », Désolée, ça me, je ne peux pas, parce que je peux faire pendant des heures du ménage, du repassage, la cuisine, mais la poussière, ça me donne envie de me gratter. Bon. Par contre, quand j'ai lu le manuscrit et que j'ai compris que ce titre venait des ancêtres, parce que dans la tradition amérindienne, il parlait beaucoup aux morts, là, bon, j'accepte mieux le titre. Mais dans un premier temps, ça m'aurait dérangé. Voilà. Après, j'ai trouvé que ce manuscrit était vraiment bien écrit, il y a de très beaux passages, mais j'étais quand même perdue dans l'histoire. Et moi, pour un livre, pour qu'il soit édité, pour que je l'aime, j'ai besoin d'un fil conducteur et d'une histoire. Voilà.
Moi, je vais proposer d'éclaircir le fil conducteur. Alors, est-ce que j'ai compris ? Cela se passe dans l'île de Vancouver. En fait, il y a une famille formée du père, géologue, la mère. Ils ont deux enfants, la blonde et Jésus. Ils trouvent sur la plage échouée la grande, qui est une naufragée bleue. Ils vont, après un tremblement de terre qui tue le père, de laisser leur maison, se diriger vers le sud en pick-up. Sur le trajet, le fils qui ne peut pas quitter sa culture se suicide. La blonde va vers le continent. Il reste donc la vieille et la bleue. Et là, on a tout ce qu'a décrit Olivia, tout le chamanisme de la vieille et la modernité de la bleue. Et je pense, mais je ne sais pas, ça n'est pas dit, que l'on a peut-être un fondement d'Aléout, c'est-à-dire d'une peuplade primitive qui était proche des îles, de l'île Vancouver. Donc voilà, la trame claire. Si elle est bonne.
Mais c'est bien que vous nous ayez expliqué le livre.
La seule interrogation par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que pour moi, le père n'est pas mort dans le tremblement de terre, mais c'est plutôt la vieille qui l'aurait tué. Mais.
J'ai pas compris ça.
Oui, en fait, c'est ça. C'est que c'est un livre où on n'a jamais lu la même chose. Parce qu'alors, moi, je pensais aussi plutôt, comme toi, François, qu'en effet, il y avait une histoire d'inceste, mais on m'a dit non, pas du tout. Et que du coup, c'est pour ça que la mère aurait tué le père. Et je me suis un peu perdue.
Et moi, j'ai cru une histoire d'inceste, mais pas la même. J'ai cru que la sœur avait des relations coupables avec le frère et que c'est pour ça qu'il se suicidait, qu'il mettait des cailloux dans ses bottes et qu'il partait. Enfin, ceci dit, je félicite ces dames d'avoir trouvé tout ça derrière ce livre, parce que moi, j'ai rien trouvé. J'ai passé mon temps à essayer d'y comprendre quelque chose. Et croyez-moi, c'est un sacré boulot. Je ne sais plus qui a parlé tout à l'heure de puzzle. Mais c'est François, c'est vraiment ça, c'est un puzzle, mais un puzzle de 5000 pièces, quoi, à remettre en ordre. Et croyez-moi, je vous le dis encore une fois, c'est du boulot. Mais oui. Bon, ceci dit, au niveau de l'écriture, tout le monde trouve ça fabuleux, moi je trouve ça... Bof, vous avez bien compris que j'aime pas trop ce livre. Mais non, pour moi, c'est trop compliqué. Ces dames sont des intellectuels, moi je dois être un béotien. Voilà, chacun sa place.
Je voulais juste dire que je suis d'accord sur le fait qu'on nous le sert déconstruit, le texte, et moi j'ai eu besoin de le reconstruire, donc j'ai dû le lire et le relire. Et j'ai l'impression que c'est un texte où on a envie de le relire et de le relire, ou pas. Mais on ne peut pas rester sur une seule lecture.
Non, moi, je l'ai relu par nécessité pour essayer d'y comprendre quelque chose. Mais à la deuxième lecture, je n'ai pas plus compris qu'à la première. Et j'ai renoncé à la troisième parce que j'avais mal à la tête.
Moi, j'ai vu ça comme une métaphore sur l'angoisse de quitter le nid maternel. Parce que la vieille, elle rejette la fille parce qu'elle-même a été rejetée par sa mère. Et je parle de nid maternel parce qu'il est sans arrêt fait référence aux oiseaux. Plusieurs fois, il faut sauver les oiseaux dans le livre. Ceci dit, j'ai quand même bien creusé pour trouver cette métaphore et ça doit être une lectrice un peu paresseuse parce que j'avais pas envie de relire deux, trois fois le manuscrit. Je l'ai lu qu'une fois, mais c'est quand même très, très opaque. Hein. C'est quand même... très, très obscur. Et je vous félicite toutes les deux d'avoir tiré tant de choses de ce livre.
Alors moi, j'ai juste une question. Page 30, pourquoi nous avions le sang des Premières Nations et le poil si blond. Ça m'a interpellée. S'ils sont blonds.
Mais il y a une petite explication. Quand il parle du déluge, il dit qu'il y a un homme qui est monté du côté de la montagne, une femme de l'autre côté de la montagne. Donc il y a un mélange. Et c'est la naissance des traditions de cette fameuse tribu de l'île de Vancouver. Donc il y a deux ascendances qui mêlent.
Mais c'est une légende, mais ils sont blonds.
C'est une légende.
Ils sont blonds en réalité.
Et ils expliquent donc ces deux ascendances.
Enfin, on serait à l'est, vers Saint-Pierre-et-Miquelon, les Vikings sont arrivés, donc on pourrait avoir une explication.
Je ne suis pas allée aussi loin, mais disons que j'ai senti qu'il y avait des racines dans cette histoire de déluge et cette légende de cette tribu qui est nommée, cette tribu amérindienne qui est nommée dans le texte.
Mais à la limite, on s'en fout un peu parce que l'important, ce texte, pour moi, c'est la force des images qui m'embarque et même si je ne comprends pas trop, je suis touchée. Voilà.
Alors justement, ce que tu dis là, Olivia, je trouve que c'est un peu en contradiction avec la manière dont tu parlais de la déconstruction. C'est sûr que ce manuscrit, je l'ai aussi ressenti comme déconstruit, mais moi, j'ai pris un réel plaisir à me vautrer dans cette déconstruction et je ne vois pas beaucoup l'intérêt et la nécessité de reconstruire quelque chose de logique qui aille bien avec nos codes et avec la manière dont on met la société dans des petites cases. Je pense que de temps en temps, il ne faut pas se priver du plaisir, du clair-obscur. Et moi, ce livre, c'est vraiment du clair-obscur.
Oui, moi, je rajouterais mais il ne faut pas non plus se priver de la richesse de faire des liens. Ce qui est bien dans ce texte, c'est que chacun est libre de faire les liens qu'il veut, les ponts qu'il veut. Oui.
Un bémol par rapport à ce que dit Françoise, on apprécie cette déconstruction du texte. Et je mettrai quand même un bémol sur la première voie de la bleue, où on perd le lecteur. Et ensuite, si on est un lecteur comme nous, appliqué à l'exercice, on va continuer. Mais il y a quand même un écueil là. Il faut rentrer dans le texte. Et je trouve que la première voie ne fait pas suffisamment rentrer dans le texte.
La première fois qu'elle prend la parole
La première fois qu'elle prend la parole, oui. La bleue.
D'accord.
Or, c'est très important que ce soit elle qui prenne la parole en premier. C'est elle qui dit.
Oui, non, mais pas sur la longueur du personnage. D'accord.
Je vais aller dans le sens de Françoise. Je n'ai pas dépassé le premier chapitre. Je n'ai pas réussi à rentrer dans le livre et pas dépasser le premier chapitre. Bon, je ne l'ai pas lu en physique. Je l'ai lu sur la tablette. Donc, c'est plus difficile à lire qu'en papier. Mais honnêtement, je n'ai pas pu dépasser le premier. Mais par contre, l'explication d'Olivia me donne envie de le lire maintenant. Non ? Si on veut avoir une explication à chaque fois.
Bien sûr, ça marche. Je l'ai pas lu, mais j'ai l'impression que ce texte, il répond à votre deuxième partie éditoriale, plus vers l'illustration que vers l'histoire. Je me trompe ?
Je ne sais pas, mais par rapport à la non-linéarité du texte et à ce puzzle, je crois qu'il répond à une chose très précise, qui est qu'on n'est pas dans un univers occidental, mais justement dans un univers autre qui ne répond pas à ce temps linéaire. Et ça, je crois que c'est une réponse, en tout cas, qui est intéressante du point de vue de la forme, c'est-à-dire, effectivement, on est perturbé en tant que lecteur par cette non-linéarité, par ces allers-retours, mais c'est le monde et ses opacités, mais c'est ce monde chamanique, c'est ce monde que l'auteur essaie de nous faire percevoir. Donc, il n'y aurait aucune logique à vouloir être dans notre logique.
C'est l'illustration qui doit donner un peu plus de sens, peut-être.
Ah, peut-être. Alors, peut-être, oui, mais le problème, c'est que ça ne sera jamais qu'une interprétation.
Alors, j'ai pas lu le livre, forcément. Mais je trouve ça intéressant, notamment, qu'il y ait des extraits qui soient donnés, puisque je trouve qu'avec de tout petits extraits, on arrive à entendre une voix. Moi, je dirais que, puisqu'il y a des gens qui cherchent à expliquer, qui cherchent du sens, je trouve qu'il y a une voie dans la littérature qui s'appelle la poésie et qui, effectivement, quelquefois, provoque cette recherche de sens, mais ne le contient pas en elle-même. Quoi. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut recevoir comme ça. C'est un exercice difficile d'être éditeur sur scène, je trouve, et de partager la lecture des manuscrits avec plein de gens. Je trouve ça assez fascinant.
Merci. D'abord, je suis admirative pour l'exercice auquel mes camarades se sont livrés avec tellement de talent et d'intelligence. Alors, si un des objectifs de la lecture, c'est de rencontrer le lecteur, il me semble que c'est quand même vraiment important, combien de lecteurs rencontreront le premier manuscrit Martin de la Tour ? Ce troisième, La poussière, qui est d'une complexité, me semble-t-il, qui va rebuter, probablement. Enfin, je suis plutôt pour La piétonne, qui, ce roman va vraiment rencontrer des lecteurs. C'est un miroir, c'est un miroir de la société. Au quotidien, nous rencontrons ce genre de personnes. Et pourquoi éloigner, justement, ce témoignage de la littérature, en somme. Alors, j'ai compris que le livre est écrit avec beaucoup de maladresse, il doit être retravaillé, mais je me répète, l'objectif va intéresser beaucoup, beaucoup de lecteurs. Alors, le premier manuscrit dont il a été question, ce sera un livre pour privilégier, un livre pour des lecteurs qui ont des références historiques solide. Le troisième manuscrit, c'est vraiment pour des intellectuels qui vont le défendre.
Non.
Voilà. Bon, peut-être que j'aurais lu les trois manuscrits avec intérêt pour la langue qui est utilisée, je n'en doute pas, mais je rencontrais des lecteurs, le premier et le troisième, combien vont-ils rencontrer ? Voilà. Alors,
vous posez une question extrêmement compliquée, mais est-ce qu'on publie des livres pour aller vers ce que le lecteur attend déjà, ou est-ce qu'on publie des livres pour essayer de faire lire au lecteur ce qu'il ne lit pas d'habitude et ce qu'il...
Alors, non. Il ne faut pas avoir forcément la culture pour lire le 1 ou le 3. On va les appeler le 1 ou le 3. Mais parce que, comme l'a dit Samuel, ce sont des livres qui sont quand même bâtis sur le matériau, sur un matériau poétique,
oui.
Qui, par ailleurs, est aussi, y a aussi une érudition derrière ou alors des énigmes. Mais il y a quand même, on peut lire ces livres juste comme... l'a dit, j'oublie les prénoms,
Olivia,
juste en se laissant porter de toute façon par, le, ouais. par les mots et sans en comprendre toutes les arcanes du texte.
Et j'ajouterais juste, il y a des livres qui donnent tout au lecteur et qui sont extrêmement agréables à lire, et je suis le premier à être un lecteur de polars, voilà, j'aime lire des polars. Mais après, je crois qu'en tant que lecteur, il y a aussi des livres où il faut accepter et de se perdre, et de ne pas tout comprendre, et que tout ne soit pas donné, et que c'est là aussi, quand en tant que lecteur, je deviens vraiment actif, c'est-à-dire que je dois moi-même remplir des blancs, que je dois moi-même essayer d'accepter de ne pas comprendre des choses. C'est quand même ça, la littérature. On vit dans un monde où on ne comprend pas grand-chose, et essayer d'accepter aussi que cette non-compréhension fasse partie intégrante de ce qu'on lit, je pense que c'est extrêmement important, et que l'un des sens de la littérature, évidemment de la poésie, mais pas seulement de la poésie, de la fiction aussi, il est là quand même, se laisser entraîner vers là où on n'irait pas naturellement dans notre vie.
Moi, je voudrais juste rajouter...
Oui, j'aurais voulu poser une question. Comment vous choisissez le plasticien qui va illustrer le livre ? Et est-ce que vous lui faites lire le livre ? C'est vous qui décidez du choix ? Ça vous fait penser à telle ou telle personne ?
C'est nous qui décidons du choix. Ouais.
J'imagine qu'il faut que ça plaise au plasticien, le livre, pour l'inspirer.
Oui, les deux. Dans tous les sens, il faut que ça plaise. Donc, à la lecture du livre, on essaie d'imaginer, donc en petit comité, quelqu'un qui, à notre avis, peut apporter quelque chose et se nourrir de ce texte, dont le travail plastique peut être généré par ce texte. Voilà. Après, on demande à l'auteur si cette idée-là lui plaît. Et seulement après, on fait si l'idée, si l'axe est intéressant pour l'auteur, on approche l'artiste qu'à ce moment-là et on lui fait lire le texte. Et là aussi, il faut qu'il réponde, qu'elle réponde. Est-ce que ce texte peut s'intégrer à mon travail, peut être un sujet qui va me motiver et me faire avancer? Et si oui, on lui donne carte blanche, en fait. Voilà. Ce n'est pas une commande d'illustration, ça on le répète à chaque fois, c'est un territoire d'expérimentation où il va pouvoir, où elle va pouvoir produire des formes, des dessins, c'est quand même ce qu'on demande quand même ça, qu'il désire.
Et surtout, une fois que l'auteur a dit « ce travail artistique me plaît », il n'a absolument plus rien à dire sur les images qui sont produites pour le livre, c'est une carte blanche, et de la même façon que l'artiste ne demande pas à l'auteur de corriger son texte, il n'y a aucune raison que l'auteur demande à l'artiste de changer quelque chose à ses images.
Moi, je voudrais juste revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, de l'intérêt d'emmener le lecteur là où il ne voulait pas aller. Je crois profondément que c'est tout simplement le rôle des artistes dans la société, et la place des artistes dans la société, pour moi, c'est simplement une nécessité.
Oui, mais après, madame a quand même raison, si c'est... Il ne faut pas que ça soit trop chiant, quand même. On est tous d'accord avec ça. Je veux dire que quand même, le livre doit interroger, doit balader, doit faire prendre des chemins qu'on n'attend pas, mais ne doit pas nous laisser sur le bord du chemin. Et alors après, les curseurs sont différents. Les curseurs sont différents selon les livres et en particulier... Qui ? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui.
Je suis entièrement d'accord avec toi, Samuel, mais c'est vrai que, en tout cas, on ne se pose pas la question en termes jamais, quand on décide de publier un texte, est-ce qu'on va en vendre 30, 90, 100, 200, 300 ? Nous, en tant qu'éditeurs, quand même, on se pose une question, c'est à quel moment on va pouvoir convaincre le libraire de défendre le livre. Et ça, malheureusement, c'est une question qu'on est obligé de se poser. Et je m'adresse particulièrement à toi, puisque tu es libraire aussi. Donc voilà. Mais il y a quand même ça. C'est-à-dire, bien sûr, il y a des livres qu'on a très... Enfin, par exemple, c'est un peu différent, parce qu'on a publié il y a 2 ans un texte de Dionis Mascolo, donc qui est mort, mais qui est quelqu'un que plus personne ne lit aujourd'hui. Quand on l'a publié, c'est moi qui voulais le publier, parce que c'était quelqu'un d'important pour moi en termes politiques, en termes de littérature. Quand on l'a publié, on savait très bien qu'on en vendrait... Si on en vendait 100 exemplaires ou 150, ce serait un triomphe pour ce texte extrêmement difficile. Mais il était important de le publier, on l'a fait. Après, il faut aussi savoir équilibrer, quand on a une entreprise, des textes qui ne vont pas bien marcher et d'autres qu'il va falloir vendre pour payer ces livres-là, malgré tout.
Moi, je voulais simplement revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur l'intérêt d'emmener le lecteur. Et je crois que c'est ce qui fait ou ne fait pas le succès du bouquin. Je veux dire, moi, quand certains livres, quand on veut m'emmener où je ne veux pas aller, je le ferme et je ne le lis pas. Non, mais c'est très ténu comme fil, mais ça peut être très gênant par moments.
Juste, vous pouvez refermer Ulysse de Joyce parce qu'il ne vous emmène pas. Il n'empêche que c'est un des livres les plus importants de la littérature du XXe siècle. Bon, ben,
mais libre à moi de le lire ou pas.
Je voudrais savoir si ces livres étaient publiés, est-ce que ce seraient des premiers romans ?
Oui, je crois que maintenant, on est au temps du verdict nos éditeurs.
Ce sont en effet pour deux d'entre eux, des premiers textes, en tout cas des premiers textes publiés pour La Poussière et Martin de Tours. La Piétonne est quelqu'un qui est un xième texte. François vous le dira mieux que moi, combien j'en sais rien, de quelqu'un qui n'est pas très connu.
On ne va pas citer son nom, vu tout ce qui a été dit sur La Piétonne, c'est peut-être pas... Non, mais peut-être qu'on peut vous dire maintenant, puisque sur ces trois manuscrits, il y en a deux pour lesquels on a pris une décision. Donc, on va publier Martin de Tours. Ce n'est pas très, très surprenant hein, par rapport à tout ce qu'on a entendu. On va publier Martin de Tours, mais on a fait avec l'auteur, qui s'appelle, donc, on peut dire son nom, Mina Sungen, un travail avec elle qui correspond assez aux remarques que vous avez faites pour ceux qui n'aimaient pas ou qui restaient un peu en dehors du texte. C'est-à-dire que le texte sera présenté, donc les cinq tableaux, avec les quelques lignes qui correspondent à la légende de Martin de Tours, écrite par Septime Sévère, qu'on rencontre dans le troisième ou quatrième tableau. Et d'autre part, avec une préface de l'auteur qui explique son travail. Je ne sais pas si j'ai quelques minutes pour vous lire un extrait de cette préface qui est assez éclairante, je trouve, et assez très belle. Parce que donc, sur Martin de Tours, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que Renaud voulait absolument publier ce texte. Et excuse-moi, Samuel, encore une fois, mais moi, je disais, ce texte, je le trouve absolument magnifique, mais je ne sais pas du tout comment le prendre pour convaincre un libraire de vendre un livre, certes d'une écriture somptueuse, mais sur l'histoire de Martin de Tours, c'est-à-dire quelque chose quand même de très, très difficile de nos jours à faire. Bon, bref, je vous lis le début de cette préface, hein, parce que, bon, elle est un peu longue, mais juste le tout début. Lors d'un séjour dans la ville de Tours, je découvris la légende du saint patron de cette ville, Martin. Ce n'était que quelques lignes dans le guide vert, mais ces images ont immédiatement suscité en moi le désir de les traduire en écriture. Aux portes d'Amiens, par un soir d'hiver glacial, Martin, soldat dans l'armée romaine impériale, fait don de la moitié de son manteau à un pauvre. La nuit même, le Christ lui apparaît en rêve, revêtu de cette moitié de manteau. Bon, je vous passe la vie de Martin, on en a parlé tout à l'heure. Rapidement, je me suis rendu compte que ce qui m'attirait dans l'histoire de Martin, c'est qu'elle me mettait narrativement dans l'embarras. Comment rendre compte d'événements à la véracité desquels je ne croyais pas ? Et par ailleurs, comment donner en français moderne l'image d'un monde qui était perçu dans d'autres langues mortes aujourd'hui ? Comment rendre compte de consciences dont la singularité est inexorablement perdue pour nous ? Mon texte tâche de répondre à ces questions par un artifice assumé. Au lieu de raconter une histoire, j'ai composé des tableaux avec l'ambition non pas de reconstituer une époque, mais de donner voix à l'imaginaire que générait en moi cette époque. Et juste pour terminer, donc, on ne retrouvera pas ici l'histoire de Martin, mais par touches disparates et en clair-obscur, ce qui était peut-être à côté de lui, dans l'ombre, que laisse le récit de Sulpice Sévère sur tout ce qui ne servait pas à édifier la foi chrétienne. C'est d'une sorte de retable dont il s'agit, un retable matérialiste, avec pour arrière-fond les épisodes les plus célèbres de la vie du saint. Voilà. Pour finir sur Martin de Tours, donc Renaud m'a aussi convaincu parce que il m'a proposé de travailler avec une artiste qu'on aimait beaucoup et avec qui on voulait faire un livre, voilà, et que c'est parfois aussi ça qui peut convaincre.
Oui, mais elle a encore pas dit oui, alors. Donc ça sera, donc c'est deux, ça serait une équipe féminine, encore une fois, sur ce texte-là, si on arrive à le faire tel qu'on le souhaite. Une artiste avec une auteure.
Alors justement, une artiste de quelle sorte ? Est-ce que c'est figuratif ?
C'est assez figuratif, assez naïf en fait, mais dans, c'est assez figuratif et naïf. C'est quelqu'un qui travaille sur sur des sortes de théâtralisation de son quotidien en fait. Donc quelque chose qui est assez proche du sujet, du modèle, avec un côté avec des aplats comme ça. Elle travaille sur un l'idée, ça serait qu'elle s'en empare et qu'elle refasse pas les tableaux. Je sais pas exactement, c'est à travailler avec elle pour savoir comment elle pourrait le faire. Mais voilà, c'est des sortes de notes pas de chorégraphie, comme on dit, de scénographie, des sortes de scénographie en fait sur lequel elle travaille, avec pas mal aussi de choses qui sont assez conceptuel par rapport à ça. C'est pas juste dire comment les gens se placent dans l'espace, mais quelle est la signification de gens se plaçant dans l'espace. Un travail assez très intéressant, assez particulier. Voilà.
Oui. Et pour la piétonne ?
Alors la piétonne, ça. C'est un texte le début de ce texte, ce début d'histoire d'une femme âgée qui est contrainte de renoncer à sa voiture et qui va donc devenir piétonne. Je trouve que alors pour certains d'entre vous c'était banal, moi je trouve juste que c'est quelque chose d'extrêmement touchant et poignant, et d'autre part contrebalancé par ce que je vous disais tout à l'heure sur l'irrévérence dans la manière dont c'est traité. C'est un texte totalement, en tout cas extrêmement autobiographique. C'est une dame de 89 ans qui l'a écrit, qui a déjà pas mal de livres derrière elle. Mais le problème de la piétonne, c'est que même si le texte en lui-même ne fait que se nourrir de digressions et que c'est le propre du texte, à un moment, moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, j'aime bien certaines choses de ce texte, mais pour moi, il faut en couper énormément. Et donc j'ai rencontré l'auteur, on en a discuté, elle était assez ouverte, mais nous sommes arrivés sur un constat de désaccord, non pas sur le fait peut-être qu'il fallait couper, mais que ce n'était pas les mêmes choses qu'il fallait couper, sachant que je voulais qu'elle essaie de garder son fil narratif, qui était « je suis une femme âgée qui était en voiture, qui a un accident, dont les enfants me contraignent à abandonner ma voiture, je deviens une piétonne, je marche dans Paris ». Après, il y a, contrairement à ce que certains d'entre vous ont dit, je trouve de très très belles réflexions sur ce que c'est que d'être piétonne dans Paris, qui font penser à toute une culture poétique. C'est le piéton de Paris, c'est tous ces textes dans lesquels elle est baignée, qui sont plutôt la poésie des années 40-50. Mais voilà, elle ne voulait pas couper toute une grande partie du texte qui concernait tous ses anciens logements, les logements dans lesquels elle avait vécu, dans lesquels son père, qui était un poète, avait vécu. Et moi, je ne voyais absolument pas ce que ça venait faire dans ce texte. Donc, on s'est quitté sur l'idée que non, donc nous ne publierons pas La Piétonne. Qui sera, je pense, par ailleurs, publié par un autre éditeur. Donc, vous pourrez...
Juste une question. Est-ce que le nom de l'auteur aurait été une accroche pour le lecteur ?
Pas vraiment.
Non ?
Non, c'est pas quelqu'un de très connu, je crois. Je ne sais pas, juste. Mais
c'est un nom connu, mais...
Quelque chose de la poussière, c'est un texte sur lequel on n'est pas d'accord encore, et vous nous avez fait beaucoup évoluer, je pense, dans nos choix, en tout cas moi dans mes certitudes qu'il ne faut pas passer à côté de ce texte, et François a peut-être compris qu'il ne fallait pas le passer à côté. Voilà, on en était là. Après, tout ce que vous avez dit est juste, et moi je pense quand même qu'on ne connaît pas du tout l'auteur, on n'a jamais eu aucun contact avec elle. C'est encore une femme, on n'a que des femmes de toute façon. Voilà. Et. Peut-être pas en fait. Enfin, le premier texte connu. Donc tout ce que vous avez dit est vrai. Vous nous avez apporté des éclairages qu'on n'avait pas vus, et ça c'est extrêmement intéressant aussi par rapport à l'acuité de la lecture que vous avez pu avoir, et la nôtre était peut-être un peu plus légère parfois, donc on va peut-être retravailler. Mais moi j'étais plutôt quand même dans l'idée qu'il fallait clarifier un peu le propos. Il fallait quelque part à un moment, en termes d'édition, alors qu'on dit toujours que sur des textes brefs comme ça, on les prend, on clarifie, on part. Il y a quand même un travail de structure, un travail de structure à faire, un travail d'éclaircissement de la narration, du fil, mais tout en ne faisant pas un truc trop linéaire. Hein. Je pense qu'il faut garder quand même des zones d'ombre et des zones des voies disruptives comme ça, mais voilà, donc on est en train d'hésiter et François pense que ce texte est trop compliqué et moi je pense que d'un point de vue formel c'est vraiment magnifique.
Non, je pense que ce texte est d'une écriture absolument alors pas somptueuse parce qu'on peut dire ça de Martin de Tours, mais d'une profonde originalité et que vraiment il y a une voix d'écrivain qui naît dans ce texte, c'est évident. Après, il se passe deux choses pour le moment avec moi pour ce texte. C'est que d'abord, je ne retiens jamais le titre. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qu'il faudra, je pense, revoir. Et autant à chaque fois que je le lis, je me dis, mais cette écriture, il y a vraiment quelque chose. Il y a une écriture. Mais quand je l'ai refermé, de l'histoire, je ne sais pas forcément ce qu'il me...
Je peux dire quelque chose. D'abord, moi, j'ai lu ce texte à cause du titre, que je trouve extraordinaire. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce que vous venez de dire ? Attendez. Oui, non, moi, c'est le contraire. Je me suis dit, ce livre est important pour moi parce que je n'arrêtais pas d'y repenser après. Et je me suis dit, alors moi, un livre ou un film qui me laisse des traces comme ça, c'est bon signe. Et puis, je voulais juste te dire, parce que vous dites que ça a été écrit par une jeune, et je sais que Émilie, qui s'occupe de toute la coordination des correspondances, m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé. Elle est jeune. Donc, voilà. C'est peut-être un livre pour les jeunes.
C'est-à-dire que nous, on est vieux, c'est ça.
Non, pas du tout.
On va faire des livres qui plaisent
mais
aux jeunes.
Je dis que c'est peut-être un livre d'avenir pour les jeunes.
Oui. C'est vrai qu'il y a un côté western quand même un peu. Il y a un côté road movie nord-américain et tout ça. On sent que, moi j'aime bien aussi qu'on sent que c'est quelque chose qui est nourri de plein de références littéraires, historiques et ethniques aussi, mais il y a ces références littéraires qui vont chercher chez Régent du Charme ou chez des gens comme ça que j'adore, et donc ça j'aime beaucoup aussi.
Ben, je crois qu'il commence à être tard, donc si plus personne n'a de questions à poser, on vous invite à aller voir les livres du chemin de fer qui sont sur la table du libraire là-bas. Allez voir, c'est des très jolis livres, des belles illustrations. On remercie Renaud et François de leur présence. On remercie également Olivia, Jacqueline, Yvette, les deux Françoise et Guy pour leur lecture. On remercie Diego, le technicien, qui s'est prêté à notre jeu. Et on vous invite à venir partager un verre avec nous. L'apéritif a été préparé par des membres du comité de lecture. On ne fait pas que lire, on fait aussi des bonnes choses à manger. Et il y a également du vin offert par les correspondances. Merci à tous.